Orion Hebdo, Éric Bataillon.
L'Égypte des pharaons est, du point de vue des archéologues du monde entier, une terre de trésors et d'innombrables richesses, avec son sphinx, ses majestueuses pyramides et ses énigmatiques tombeaux. Au cœur de ces monuments, les anciens Égyptiens nous ont légué de mystérieuses inscriptions, les hiéroglyphes. Celles-ci nous révèlent leur grande histoire grâce à l'intelligence, le sens de l'observation et la sagacité d'un jeune savant français du début du 19e siècle. Et, à l'occasion du bicentenaire du déchiffrement de ces hiéroglyphes, pardon, Jean-François Champollion, France 5 propose un documentaire inédit dont vient nous parler son réalisateur Patrick Cabouet. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanté au Caire. Bonjour Patrick Cabouet.
Bonjour Éric Bataillon.
De quoi sont constitués les hiéroglyphes ?
Les hiéroglyphes sont une écriture extrêmement ancienne dont on avait perdu la trace pendant plus d'un millénaire et demi et qui sont essentiellement gravés sur les murs des tombes et des monuments anciens égyptiens et qu'on retrouve également sur des papyrus. Mais généralement, c'est une écriture dite monumentale, c'est-à-dire en fait prévue pour être gravée dans la pierre. Et Champollion, grâce à la pierre de Rosette, a pu comprendre qu'il s'agissait d'une langue à la fois idéogrammique, mais également phonétique. Et il a pu, terme à terme, reconstituer à partir d'un texte qui était écrit en grec, mais également en hiéroglyphe, rapprocher les deux langues et donc casser le code et comprendre la complexité de cette langue qui n'était pas... parce que lui parlait le chinois, parlait un certain nombre de langues et pendant longtemps il a pensé que c'était comme le chinois, fait d'idéogrammes. Mais il s'est rendu compte que, en fait, ça dépassait largement cette grammaire.
Qui a créé ce langage ?
Alors, c'est un langage très très ancien qui remonte à l'ancien empire. Évidemment, sur les trois millénaires de civilisation pharaonique, le langage a évolué. Le langage hiéroglyphique, enfin l'écriture hiéroglyphique elle-même a évolué. A évolué d'une part vers une simplification qui s'appelle le hiératique, qui est des hiéroglyphes mais un peu simplifié. Et ensuite, dans le bas-empire, c'est-à-dire à l'époque de la colonisation grecque et romaine, qui est devenu le démotique. Et là, qui est une écriture carrément cursive, qui servait, au-delà de l'écriture sur les monuments, à s'envoyer des lettres, à faire des comptes, à faire des comptes rendus. C'était une écriture plus scripturale.
Patrick Cabouet, cette langue a cessé de nous parvenir à peu près au VIe siècle après Jésus-Christ. Est-ce que l'on sait pourquoi ?
Alors, au VIe siècle après Jésus-Christ, l'Église chrétienne émet un décret qui dissout toutes les pratiques religieuses autres que la chrétienté. Donc, du coup, les prêtres, qui étaient les seuls, les derniers porteurs de la connaissance des hiéroglyphes, ont disparu, et avec eux, la langue a disparu. Donc, ensuite, on rentre effectivement dans des inscriptions en grec, en romain, et puis plus tard en arabe.
Alors, votre documentaire nous emmène sur un site en Haute-Égypte qui s'appelle TT33. Où est-ce et en quoi est-ce un site exceptionnel ?
Alors, la TT33, sur lequel travaille l'IFAO depuis 15 ans, se trouve à Thèbes, enfin l'ancienne Thèbes, qui est aujourd'hui Louxor, et qui est à 700 km lorsqu'on remonte le Nil à partir du Caire, sur la vallée, tout proche de la vallée des rois, que la plupart des gens connaissent bien, puisque c'est un site sur lequel on a retrouvé la tombe de Toutankhamon et celle de Ramsès et un certain nombre d'autres tombes. C'est une vallée parallèle qui est sur la rive ouest du Nil, donc en face de la ville de Louxor. Et c'est dans la ville de Louxor qu'on retrouve la plupart des palais correspondants de ces pharaons, et leurs tombes sont sur la rive désertique, qui est la rive est.
Alors, votre film est une sorte de visite guidée de ce site avec un égyptologue, Claude Tronecker. Est-ce le découvreur du site ?
Alors, le site a été découvert bien avant lui, dès le Moyen-Âge. Ensuite, il a été visité au XIXe siècle. Un certain nombre d'explorateurs à l'époque, puisque l'égyptologie n'existait pas encore, avaient visité cette tombe. Et le dernier à la visiter est Gaston Maspero, le célèbre archéologue, égyptologue, qui l'avait fait murer en 1905. Et lorsque Troedeker est arrivé en demandant aux Égyptiens de rouvrir cette tombe, il a obtenu l'autorisation, il a fait rouvrir, et c'est là qu'on a redécouvert cette tombe qui, ayant été murée pendant un siècle, était remplie de cadavres de chauves-souris, puisqu'il y avait plusieurs millions de chauves-souris qui avaient élu domicile là, et c'était l'idée de Maspero, c'était de tuer ces chauves-souris. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la partie de la tombe qui était murée, l'odeur était épouvantable, c'était de l'ammoniaque. Et donc, ce qui explique que quand on pénètre dans cette tombe, il faut mettre des masques parce que l'air est absolument irrespirable.
Alors, à part ces cadavres et cette atmosphère, qu'est-ce que l'on peut voir dans cette tombe TT33?
Alors, la tombe date de 760 avant Jésus-Christ, donc elle est très très ancienne. Elle a été évidemment assez dégradée à la fois par les occupations diverses qui ont eu lieu, c'est-à-dire qu'il y avait des bivouacs, que les gens ont fait des feux dedans, donc ils ont noirci les murs, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des pilleurs qui ont enlevé les gravures, les représentations, les peintures murales. Mais il reste énormément, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reste quand même pratiquement 2600 mètres carrés de parois gravées de hiéroglyphes. Et ces parois sont intéressantes pour les égyptologues dans la mesure où elles contiennent les textes des plus anciens livres funéraires de l'Égypte, et en particulier sept grands textes de livres funéraires qui permettent de comprendre à la fois la religion et le quotidien des Égyptiens des empires anciens et nouveaux.
Est-ce que cela nous apprend des choses nouvelles? Est-ce que l'on découvre de nouvelles choses au fur et à mesure de l'exploration de cette tombe?
Alors, les axes de recherche, ils sont doubles. C'est-à-dire à la fois l'étude à proprement dit de ces textes funéraires, mais dans les textes funéraires, on apprend des choses sur la civilisation, sur les croyances, sur le rapport au pharaon, à la mort, etc. Mais on apprend également des choses sur les personnes, sur les artisans et les peintres, les graveurs qui ont fabriqué cette tombe et qui l'ont conçue. Et donc ça, c'est un domaine nouveau de l'égyptologie, c'est de retrouver les techniques de fabrication des tombes.
Patrick Abua, votre film est-il d'abord et avant tout un hommage à Jean-François Champollion?
Alors c'est évidemment un hommage à Jean-François Champollion, dont c'est le 200e anniversaire en 2022, 200e anniversaire de la date à laquelle il a pu craquer le code des hiéroglyphes.
Parce qu'il est mort, oui, 10 ans après, c'est-à-dire en 1832, je crois.
Il est mort en 1832, en rentrant à Paris, mais il est mort d'épuisement, puisqu'il est mort très jeune, en fait. Mais il a fait un tel travail à la fois à Paris, à Turin, et en Égypte, et sur le Caire, et ensuite à Paris de nouveau, là, puisqu'il dirigeait le département d'égyptologie du musée du Louvre, et il est mort d'épuisement, en fait. Donc il faut lui rendre hommage, parce que tous les archéologues d'aujourd'hui disent que c'est lui le père de l'égyptologie.
Alors justement, votre documentaire montre aussi le travail des restaurateurs, il nous donne des indications sur les techniques de fabrication des hiéroglyphes. On apprend également que Champollion s'est intéressé à un autre support de l'écriture, qui était le papyrus, vous l'avez dit. Papyrus qu'il a étudié notamment à Turin, où le musée, je crois, en conserve une importante collection. Finalement, Champollion est-il uniquement le traducteur des hiéroglyphes, ou est-ce qu'il est plus que cela, selon vous?
Alors, oui, effectivement, Champollion est plus que juste le traducteur des hiéroglyphes, puisqu'il est allé très tôt, même avant son expédition en Égypte, étudier des papyrus dans le nouveau musée qui s'appelait le musée Egidio de Turin, qui venait d'acquérir une collection extraordinaire qui était vendue par le consul de France au Caire, qui s'appelait Drovetti, et qui faisait commerce. Lui, il allait sur place, il fouillait, il récupérait des objets et il les revendait. Il les avait proposés à la France, mais la France ne lui avait pas proposé une somme suffisante. Donc, du coup, il les a vendus au duc de Savoie, qui venait de monter ce musée Egizio et qui a été le premier grand musée égyptologique du monde. Et évidemment, Champollion, lui, s'intéressant à cette recherche, a demandé de pouvoir allé à Turin, il a visité le musée et il y a trouvé effectivement des papyrus extraordinaires qui sont encore conservés à Turin, et en particulier ce qu'on appelle le canon de Turin, qui est en fait une liste chronologique des pharaons ayant régné jusqu'à Ramsès II. Et il a pu, puisqu'il était le seul à déchiffrer ce qui était écrit, il a pu le premier établir la chronologie des dynasties égyptiennes.
Un mot de TT33, cette tombe est dédiée à un personnage peu connu du grand public, qui est-ce ?
Alors, la TT33, en fait, c'est une abréviation de tombe Thébaine numéro 33, puisque on est là, au pied de la montagne Thébaine, dans cette grande vallée, où sont enterrés un certain nombre de notables des différents régimes. Et donc, tout l'enjeu du film consiste à découvrir qui est, disons, le commanditaire de cette tombe, à qui est dédiée cette tombe. Et donc, on le découvre petit à petit, puisqu'on découvre d'abord un portrait d'un homme qu'on retrouve gravé dans de nombreux couloirs et salles de la tombe. Et son nom apparaît de multiples fois dans la tombe. Il s'appelle Padiaménopée. Et on découvre petit à petit que Padiaménopée était en fait un personnage très haut placé dans le pouvoir du pharaon de l'époque, et qu'il était même le maître des cérémonies, c'est-à-dire celui qui dirigeait les cérémonies religieuses, qui conseillait le roi, et qui était donc l'équivalent du Premier ministre aujourd'hui, si on veut faire le rapprochement.
Donc, pour tout savoir sur ce personnage et sur la façon dont Champollion a percé le mystère des hiéroglyphes, il faut regarder Le Palais des hiéroglyphes sur les traces de Champollion, votre documentaire, à regarder donc sur France 5, jeudi prochain, 6 octobre à 21h. Merci Patrick Cabua.
Merci beaucoup Éric Bataillon.
Dans la vallée des pyramides, les Égyptiens aboient, la caravane passe sur la route de Gizeh. C'est le plombier, attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, ton paquet de du Nil, dis-le, amène en fils, amène ton fils, faudra y apporter quelques momifications, jeter l'encre, arrêter le bateau, il faut que ce bruit de Ramsès, attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, ton paquet de du Nil, dis-le. Aujourd'hui, on casse mon pare-brise, hiéroglyphe mes portières. Ils m'ont mis la voiture dans un sale état. Qu'est-ce que j'ai fait au bon rat pour mériter ça? Attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, ton paquet de du Nil, dis-le.
Orion Hebdo sur RFI.
Fallait voir la tête d'Anubis quand on l'embauma. Patate, mettre saucisse, attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, attention, dis-le que les crocodiles du Nil ne te crocodile, ton paquet de du Nil, attention, dis-le que les crocodiles du Nil.
La revue de presse croisée Israël et Monde Arabe, nous retrouvons Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre.
Oui, bonjour.
Alexandre, la situation en Iran occupe toujours une large place dans la presse arabe.
Oui, et c'est un poème du plus grand poète iranien du XXe siècle, Mohammad Tari Bahar, qui est devenu le signe de ralliement des Iraniens qui se sont soulevés aux quatre coins du pays, écrit l'éditorialiste de Sharq al-Awsat. Un poème où Bahar demande au volcan éteint d'Amavand qui domine Téhéran de se réveiller pour débarrasser le monde de la tyrannie. Un autre éditorialiste estime que la situation est critique pour le pouvoir iranien. Le président est faible et de grandes inconnues entourent l'état de santé du guide suprême, au moment où les Iraniens n'arrêtent pas d'exprimer leur ras-le-bol malgré la répression qui, selon certains journaux, aurait fait plus de 1800 morts. un analyste souligne que les autorités iraniennes cherchent à détourner l'attention en accusant les Kurdes de vouloir semer le chaos après la mort de Mahsa Amini, le détonateur du soulèvement qui était d'origine kurde. Une journaliste pointe le fait que les femmes avaient été les premières à protester en 1979 quand la nouvelle République islamique a imposé le voile, et les voici à l'origine du dernier soulèvement.
Michel Paul, la presse israélienne s'est concentrée cette semaine sur les tensions très fortes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les forces de l'ordre redoutent un attentat pendant cette période de fête en Israël.
C'est le nom à retenir, Riyan Soleiman, un enfant palestinien de 7 ans, mort pendant une opération de l'armée israélienne dans le village de Tekoa, au sud de Jérusalem, très précisément lors de l'entrée en force des commandos israéliens dans sa maison pour arrêter deux de ses frères. Alors, les circonstances de sa mort ne sont pas claires. Les États-Unis, quoi qu'il en soit, exigent d'Israël qu'il procède sans plus attendre à une enquête. À suivre donc. Eric, la situation en Cisjordanie, et plus particulièrement au nord de ce territoire palestinien occupé, suscite beaucoup d'inquiétudes. La tension est de plus en plus vive. Pour les responsables israéliens, une opération de vaste envergure est inéluctable, mais précisément, une source militaire de haut rang citée par les médias ici ce week-end souligne que l'escalade n'est pas nécessairement la bonne solution et les journaux reflètent la colère des habitants des colonies de peuplement. Notre sécurité n'est pas assurée, affirme-t-il. En attendant, en tout cas, les attaques contre des civils et des militaires se multiplient. Pour un éditorialiste, les responsables israéliens cherchent un alibi en cas d'attentat qui ne serait pas déjoué par les forces de sécurité israéliennes. Et pour Haaretz, le journal de la gauche, la situation se résume en un titre: l'occupation n'est plus sous contrôle.
Alexandre, de nombreux éditoriaux et analyses sur l'après Youssef al-Qaradawi. Ce prédicateur était russe, un frère musulman décédé lundi au Qatar.
Oui, le cheikh Qaradawi, mort à 96 ans, était le dernier contemporain encore en vie de l'imam Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie des frères musulmans, rappelle un éditorialiste. Sa disparition va provoquer un vide au sein des frères musulmans et les différentes composantes de la confrérie vont essayer de proposer un remplaçant. Une tâche d'autant plus difficile que les frères musulmans sont réprimés en tant qu'organisation terroriste en Égypte, en Arabie et aux Émirats. À l'étranger, ils ont aussi perdu le soutien inconditionnel du Qatar et de la Turquie, indique un analyste. Restent les frères présents en Occident et surtout à Londres. Le problème, conclut un journaliste, c'est qu'ils ne sont pas tous d'accord.
Michel, en bref, d'autres sujets qui font l'actualité en Israël.
Les élections dans un mois, le tout dernier sondage renvoie à nouveau les protagonistes dos à dos. Personne ne sera même de mettre sur pied une coalition gouvernementale viable au lendemain du 1er novembre. Cela à la suite d'une perte de vitesse du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. De nombreux articles aussi sur l'annulation des candidatures du parti arabe Balad et aussi d'un député de la droite israélienne. C'est la Cour suprême qui aura le dernier mot sur ces sujets. Pegasus, à nouveau sur la sellette. Le Jerusalem Post révèle que le logiciel espion de la société israélienne NSO a été découvert dans les téléphones de 12 dirigeants indonésiens. L'accord sur les frontières maritimes entre Israël et le Liban se rapproche. C'est un pari sur la rationalité de Nasrallah, le leader du Hezbollah, estime un commentateur. Et également, Eric, plusieurs articles sur les divers chantiers qui paralysent la ville de Tel Aviv avec les trottinettes qui ont envahi les trottoirs. Il n'y a plus de place pour les piétons.
Et les images que vous avez retenues pour nous cette semaine ?
Eh bien, ce sont les photos des membres de la secte ultra-orthodoxe Lev Tahor, accusés de viol, inceste et maltraitance. Plusieurs de ses dirigeants ont été arrêtés au Mexique. La secte est éparpillée dans le monde entier et elle menace de s'installer en Iran.
Une secte juive ultra-orthodoxe qui s'installerait en Iran, voilà qui n'est pas banal. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une mise en onde et une réalisation Mathias Golshani. Émission à retrouver sur notre site rfi.fr ou en podcast. Vous connaissez notre application Pure Radio ainsi que la plupart des plateformes numériques. Demain, émission très musicale avec la chanteuse lyrique Anoucha Nazari. Nous parlerons de son parcours, de son prochain concert poétique en trio à Paris et aussi de la situation dans son pays natal, l'Iran. À demain donc, prenez soin de vous.